Alors bien sûr, bon, cette supposée bâtardise d'Hamlet n'est qu'une supposition, parce que rien dans la pièce ne permet de l'étayer formellement, ici comme ailleurs. Shakespeare maintient les choses dans leur ambiguïté, dans leur ambivalence, dans leur indécidabilité. Cette supposition, pourtant, de près ou de loin, il n'est pas possible que Hamlet n'en soit pas un peu effleuré. Cette pièce, donc, est un drame de l'indistinction, et un drame de l'indistinction familiale. Tout d'abord, lorsque Claudius, dans le début de la pièce, l'appelle, pour vous, cousin Hamlet, qui êtes mon fils, l'appelle donc cousin et fils, un peu plus que cousin, mais moins que l'un des tiens. Alors, c'est assez difficile à traduire en français. But now, my cousin Hamlet and my son, a little more than kin, a little less than kind. Il y a ce jeu de mots sur la proximité, la séparation entre ben, des positions symboliques hein, au sein de la famille. Le dialogue se poursuit. Le roi, comment? Les nuages sont donc encore sur vous. Il y a cette métaphore de la mélancolie. Du tout, monseigneur, je suis trop fils du soleil. I am too much in the sun. Avec ce jeu de mots, hein, sun, S-U-N en anglais, le soleil, qui est très proche phonétiquement de son, S-O-N, le fils. Alors, ce dernier jeu de mots, d'ailleurs, enfin, ce dernier jeu de mots et cette dernière métaphore de Claudius sur les nuages fait référence, bien évidemment, à l'humeur mélancolique d'Hamlet, à cette fameuse antique disposition qui est la sienne. Mélancolie, c'est une condition psychologique cachée, hein, c'est du domaine de l'être, d'accord, du verbe to be, donc de l'intériorité. Mais cette intériorité, elle s'objective, hein, elle se donne à voir à l'extérieur, elle se rend visible, elle vient dans le domaine du to seem, d'accord, du paraître. Et elle se rend visible au théâtre en particulier, bon bah là c'est une convention théâtrale très courue, hein, de ce théâtre shakespearien, elle s'objective donc par la couleur du deuil, la couleur négative, parce que Hamlet appelle Linky Cloak, hein, ce vêtement noir. Alors donc, comme je vous disais, c'est une convention hein, du théâtre, cet art du visible, que le caractère du personnage s'affiche dans son vêtement. Dans une autre pièce de Shakespeare, une pièce qui précède immédiatement Hamlet dans As You Like It, c'est-à-dire Comme il vous plaira, en 1599, donc un an avant Hamlet, on a ce personnage de Jacques, hein, qui est le prototype du caractère mélancolique, le fou triste. Alors il est vêtu de noir, hein, il est d'humeur noire, et il est bouleversé le jour où dans la forêt, il aperçoit un fou, un autre fou, mais un fou d'un autre type, un fou multicolore, un fou bariolé, un fou heureux hein, dans ses habits chatoyants. Hamlet, lui, en dépit de la vivacité de son esprit, en dépit de ses saillies qui sont parfois très drôles, c'est un fou triste. Il est vêtu de noir, donc, et c'est un être brisé par la mélancolie et du même coup sujet à un certain nombre d'affections. Alors, la mélancolie dont souffre Hamlet est à comprendre dans le cadre de la théorie des humeurs. C'est une théorie qui a été élaborée dans l'Antiquité par les médecins Hippocrate en particulier, qui a été repris ensuite dans le monde latin, romain, par Galien. Et cette théorie est toujours en vigueur à la Renaissance. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie des humeurs? Il faut que je vous explique un petit peu les grandes lignes. Comme vous le savez, il y a quatre éléments dans l'univers, tout ce qui est, hein, est constitué de quatre éléments et de la combination plus ou moins, à plus ou moins grand dosage de ces quatre éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu. À ces quatre éléments, dans le corps humain, répondent quatre humeurs. Il y a un système de correspondance, hein. Le sang, la flegme, la bile jaune et la bile noire. La bile noire, hein, en anglais, c'est le spleen. Alors, pour atteindre à la bonne santé, autant physique que mentale, eh bien, selon cette théorie, il convient de parvenir à un équilibre des humeurs. Que l'une de ces quatre humeurs prenne le pas sur les autres et domine, eh bien, c'est tout l'équilibre à la fois physique et psychique qui est bouleversé. Hein, que la mauvaise humeur de la bile noire, de ce spleen, envahisse le corps, et c'est aussi l'esprit qui est submergé par la mélancolie. Alors, cette mélancolie, elle était objet d'étude. Il y avait un contemporain de Shakespeare qui s'appelle Timothy Bright, hein, et qui écrivait dans un ouvrage qui s'appelle Treatise of Melancholy en 1586, hein, donc très peu de temps avant. Et les commentateurs pensent aussi que Shakespeare connaissait bien cet ouvrage, qu'il l'avait lu. Il dit, ce Timothy Bright, que les sujets mélancoliques sont très tout particulièrement enclins à recevoir des visitations surnaturelles, à avoir des visions. Et c'est effectivement ce qui ne manque pas d'arriver dans le cas d'Hamlet. Perturbé, il l'est. Ça ne fait aucun doute. Mais est-il fou? Ou s'il est un peu fou, eh bien jusqu'où est-il fou? D'avoir trop joué au fou, est-ce qu'il le devient vraiment? Ou prétend-il déguiser une folie réelle en jouant, une folie simulée, en s'en jouant, tout en étant en même temps joué par elle, tout en étant en même temps son jouet? Là encore, et comme partout ailleurs, ce diable de Shakespeare s'est arrangé pour que les choses demeurent indécidables et pour que celui qui questionne, ici vous et moi, eh bien, nous tombions dans des abîmes de perplexité. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls, car dans la pièce, les autres personnages autour d'Hamlet s'emploient à savoir, ils veulent savoir. C'est tout l'acte 2 qui est employé à cette entreprise d'essayer de sortir de l'intériorité d'Hamlet son mystère. On a Polonius, par exemple, lui, le vieux fou, là, qui a une certitude, lui, il a une théorie. Bon, c'est à cause de sa fille. Hamlet est amoureux et comme elle l'a envoyé balader, il est triste, il est mélancolique. Bon, c'est une explication qui vaut ce qui vaut, qui est pas satisfaisante. Alors même si c'est vrai que ça doit avoir une influence, sur le moral d'Hamlet, cette volte-face d'Ophélie, qui d'ailleurs est complètement, au passage, on peut le noter, programmée par son père Polonius. Bon, c'est un peu insuffisant pour expliquer le fond de la mélancolie d'Hamlet. Ça, c'est la théorie de Polonius. Il y a la théorie de la mère d'Hamlet, elle, qui pointe dans une autre direction, lorsqu'elle est avec le roi, le roi lui dit, en parlant de Polonius, il dit, ma chère Gertrude, avoir trouvé l'origine et la source du désordre de votre fils. La reine répond, je crains qu'elle ne soit autre que la raison première, la mort de son père et notre hâte à nous marier. Donc il y a une autre explication qui est ici proposée par la reine, mais cela reste bien vague. C'est une explication, oui, peut-être, mais bon, c'est pas très précis. Et puis pour Gertrude, une explication un petit peu commode, de s'en tenir là, car ça la dispense d'aller voir un petit peu plus loin. Ça la dispense de comprendre ce qu'il en est vraiment et que c'est, comme on l'a vu, très certainement, l'abîme qu'il y a au fond de son âme à elle qui trouble Hamlet, bien plus que telle ou telle action, même telle modalité comme le trop vite d'une action comme se remarier. Elle sous-entend sans doute, Gertrude, que si cela ne s'était pas fait si vite, si cela s'était fait moins vite, eh bien il n'en aurait rien été du trouble de son fils, et qu'elle jouirait alors en toute impunité, en toute innocence, d'un état qui, pour l'heure, lui cause un petit peu de la gêne, on pourrait dire. En somme, selon elle, c'est pas si grave, ça va s'arranger. Et puis les bons garçons, là, que sont Rosencrantz et Guildenstern, vont aller distraire un peu leur copain, Hamlet, et tout ça va rentrer dans l'ordre, comme si de rien n'était. Tout cela sera bien vite oublié, effacé, comme si ça n'avait jamais existé. Alors, cette attitude a le don de jeter Hamlet hors de lui, de le remplir de fureur, évidemment. Bon, en tout cas, c'est la théorie ou ce que dit la reine. Le roi, lui, il a sans doute une autre théorie, il a des raisons sans doute personnelles de supposer d'autres raisons. Il semble pas entièrement convaincu déjà, ni par Polonius, ni par Gertrude, et c'est à cette fin, justement, qu'il envoie les deux compères, là, Rosencrantz et Guildenstern, en leur donnant des instructions un petit peu entre les lignes, que d'ailleurs ils comprennent très bien et qu'ils interprètent très bien, puisque après ils vont aller voir Hamlet et le mettre sur le sujet de son ambition, hein, de l'usurpation du trône. Mais là encore, hein, cette tentative échoue, rien n'y fait, aucune des explications en fait psychologiques ou politiques ici n'est en mesure de fournir dans l'intrigue de la pièce, dans cet acte 2, une explication véritable sur ce qu'a Hamlet. Et pour le fait de savoir s'il est réellement fou ou s'il ne fait que semblant, eh bien chacun en est pour ses frais. Et d'ailleurs, Hamlet renvoie Rosencrantz et Guildenstern à leurs études et au roi qui les a envoyés en leur disant, hein, une formule un petit peu humoristique, « Je ne suis fou que nord-nord-ouest. Quand le vent est au sud, je sais distinguer l'épervier du héron. » Donc voilà, ils donneront cette explication au roi si jamais ça peut lui être utile. Il y a donc autour d'Hamlet, hein, une volonté inquisitrice pour forcer le secret de son comportement. Il y a une espèce de pression, hein, de violence qui s'exerce sur lui par la surveillance de tous les instants dont il fait l'objet. Et puis par la manipulation permanente qui est au cœur de toutes ses interactions sociales avec Ophélie, avec Rosencrantz, Guildenstern, bien sûr, avec le roi, la reine, etc., avec Polonius. Donc il y a en permanence une tentative d'effraction dans les replis de son âme, dans les replis de sa conscience, de laquelle il se défend, qu'il esquive, hein, comme il peut, d'accord ? Mais il y a ici cette violence dont il est l'objet. Et cette violence dont il est la victime, l'objet, il va la retourner. À un certain moment, alors par la play scene, justement, par la scène des comédiens, il retourne tout le dispositif et il se fait, lui, metteur en scène. Mais cette exaspération, qui sans doute est la sienne, qu'il accumule, hein, au fur et à mesure des scènes, eh bien, il la retourne sur les deux compères, là, Rosencrantz et Guildenstern, dans cette fameuse scène de la flûte. Il leur dit « Voulez-vous jouer de cette flûte, Guildenstern ? Monseigneur, je ne puis. Hamlet, je vous en prie. Guildenstern, croyez-moi, je ne puis. Hamlet, je vous en supplie. I do beseech you. » Guildenstern, je ne sais pas en jouer, monseigneur. C'est aussi facile que de mentir. Contrôlez ces trous avec les doigts et le pouce, soufflez avec votre bouche et il en sortira la plus éloquente musique. Voyez, voici les touches. Mais ces touches, je ne sais pas les faire chanter selon les règles de l'harmonie, je n'ai pas appris. Eh bien, voyez-vous donc quelle piètre chose vous faites de moi ? Vous voudriez jouer de moi, vous faites comme si vous saviez le doigté de mes touches. Vous voudriez arracher le cœur de mon mystère. Vous voudriez me faire sonner de la plus basse à la plus haute note de ma tessiture, alors qu'il y a tant de musique, un si beau timbre dans ce petit instrument, et pourtant vous ne savez pas le faire chanter ? Sambleu, croyez-vous que je sois plus facile à jouer qu'une flûte ? Faites de moi l'instrument que vous voudrez. Vous pourrez sans doute me faire grincer, mais vous ne parviendrez pas à me jouer. Donc ici, eh bien, le message est symbolique, hein, sous forme d'une petite scénette, effectivement, et ça renvoie tous ces petits psys à la petite semaine, là, toute cette psychaille, tous ces petits combinards que sont tous ces personnages, qui sont renvoyés ici, dans cette scène, par Hamlet de façon symbolique, hein, de façon imagée, à la violence de leur démarche et à l'inanité aussi de leur désir de savoir. Il y a dans l'homme un bien plus grand mystère. Hein. On ne peut pas savoir comme ça des choses par cette observation un petit peu vulgaire. C'est ce que Hamlet disait à ses deux amis, là, Rosencrantz et Guildenstern, au moment où il n'avait pas encore, hein, où il n'était pas encore rentré en froid avec eux. Quel bel ouvrage que l'homme. What a piece of work is a man. Quel bel ouvrage que l'homme. Il est si noble par sa raison, si infini par ses facultés, par sa forme et ses mouvements, il est si vif, si admirable. Par l'action, il ressemble à un ange, par l'entendement, il ressemble à un dieu. Il est ce que le monde a de plus beau, le parangon des animaux. Et pourtant, etc. Et pourtant, à mes yeux, qu'est-ce que cette quintessence de poussière ? L'homme ne me procure aucun délice, etc. En tout cas, Hamlet est une pièce, comme on l'a vu, de fantômes, une pièce sur les fantômes, et une pièce qui génère aussi des fantômes. Hein, et cela autorise donc tous les personnages de cette pièce, tous ceux qui veulent savoir, à revenir en quelque sorte hanter le personnage. Alors non seulement les personnages de la pièce, mais depuis l'extérieur de la fiction, du monde réel, hein, vers Hamlet. Cette pièce, comme on l'a dit en introduction, a généré une littérature critique d'une abondance tout à fait déroutante. Hamlet est en particulier devenu le point de focalisation d'un certain nombre de psychanalystes. La psychologie profonde d'Hamlet est le sujet de méditation, un sujet de méditation récurrent dans la psychanalyse. Freud, tout d'abord, le premier d'entre eux, dans un ouvrage qui est tout à fait fondamental par rapport à la naissance de la psychanalyse. Il s'agit de l'interprétation des rêves en 1900, la fameuse Traumdeutung. Freud n'hésite pas à rapprocher l'histoire d'Hamlet et le mythe d'Œdipe, parce que pour lui, l'une comme l'autre des deux histoires, des deux mythes en quelque sorte, illustre avec de manière remarquable, de manière précise, la structure profonde du psychisme humain, c'est-à-dire ce que Freud appelle le complexe d'Œdipe. Alors, Freud parle de ça, et puis à la suite de Freud, tout un certain nombre d'autres psychanalystes, ils sont très nombreux, ce serait impossible ici de les citer tous, s'engouffrent dans cette voie un petit peu désignée par Freud et s'attaquent au mystère d'Hamlet, au mystère de cet homme. Mais qu'est-ce qu'il a, hein? Quel est comment dire, quelle est la syntaxe, quelle est la grammaire de son âme, de son psychisme? Alors, on ne va pas tous les citer parce que ce ne serait pas possible, et on va simplement s'intéresser à l'un d'entre eux. En 1910, il y a un psychanalyste donc britannique, peu de temps après Freud, qui s'appelle Ernest Jones, et qui reprend donc cette hypothèse freudienne, tout l'appareil conceptuel freudien, et en particulier l'inconscient, et qui, à la lumière de cette grille théorique, essaye d'analyser, essaye d'y voir clair un petit peu dans l'histoire d'Hamlet. Alors il fait la remarque, Ernest Jones, que pour expliquer son inaction, parce que c'est le problème fondamental, sa procrastination, Hamlet a recours à un certain nombre d'explications conscientes. Un certain nombre d'explications d'ailleurs concurrentes, diverses et variées. Alors ça peut être le dégoût de la vie, et l'extrême mélancolie. À d'autres moments, c'est la couardise, le manque de courage d'Hamlet. À d'autres moments, il invoque la véracité et la crédibilité du fantôme. À un autre moment encore, il dit que le moment est mal choisi, que pour des raisons du salut de l'âme de Claudius, il va pas faire ça maintenant quand il est en train de prier. Et puis à un autre moment, il invoque un autre motif, alors un petit peu plus flou, ce qui serait une espèce de bestial oblivion. Alors si vous voulez, on fait un petit parcours dans ces différentes justifications, auto-justifications de la part d'Hamlet. Tout d'abord, le dégoût de la vie. Alors, dans la mélancolie, bon, on sait très bien qu'il est mélancolique, en particulier dans un passage au tout début, dans son premier monologue, il se lamente de façon extrême sur l'inutilité de l'existence. Oh, si cette trop solide chair pouvait fondre et au dégel se résoudre en rosée. Oh, si le Tout-Puissant n'avait statué en ses lois contre le suicide. Oh Dieu, Dieu, combien fastidieux, éventé, plat et inutile me semblent tous les usages de ce monde. Mélancolie, donc. La couardise. Il fait référence dans un autre monologue, après avoir vu justement la douleur des cubes dont on parlait. Tandis que moi, vaurien, veulent et mal trempé, je languis comme Jean de la Lune, sans goût pour ma querelle, unpregnant of my cause, et reste à ne rien dire, rien, même pour un roi dont tout le bien et la très chère vie reçurent un coup maudit. Suis-je un couard? Cette couardise supposée, il y revient aussi un tout petit peu plus loin, dans ce fameux monologue, To be or not to be. Oui, alors je peux vous lire un petit peu. Qui prendrait ses fardeaux pour grogner et suer sous le poids de la vie si la terreur de ce qui suit la mort, pays inexploré, d'où, s'il passe la borne, nul voyageur ne revient, n'embrouillait nos desseins, nous faisant préférer nos propres malheurs à la fuite vers d'autres qui nous sont inconnus. Ainsi, la conscience fait de nous des couards, et la native couleur de la résolution se trouble de la pâle teinte de la pensée, etc. Couardise, donc, autre Justification invoquée par Hamlet. Crédibilité du fantôme. Ah oui, peut-être que le fantôme que j'ai vu est un esprit trompeur. Alors, il en fait état ici. Cet esprit que j'ai vu est peut-être un démon. Le démon a pouvoir de revêtir un aspect séduisant. Oui, aussi bien dans ma faiblesse et ma mélancolie qui sont esprits sous son pouvoir, il m'abuse pour me damner. Il me faut des preuves plus circonstanciées. La pièce is the thing wherein I'll catch the conscience of the king. Autre motif pour expliquer son inaction, des raisons sotériologiques, religieuses, théologiques, qui ont trait au salut de l'âme. Claudius est à genoux en prière devant lui, il est là, il tire cette épée et il hésite car voilà qui tombe à pic. Si je le faisais maintenant, il prie. Maintenant je le fais. Et s'il s'en va au ciel et me voilà vengé, cela vaut d'être pesé. Un félon tue mon père et pour cet acte, moi, son seul fils, j'envoie ce même félon au ciel. Voyons, c'est là une récompense, non une vengeance. Et il y a cette mystérieuse autre raison, beaucoup plus floue, cette bestial oblivion dont on parlait un petit peu plus loin. Or, que ce soit bestial oubli ou quelque lâche scrupule qui me fait penser trop en détail aux circonstances, pensée qui, mise en quatre, n'a qu'une part de sagesse et trois de couardise, je ne sais pas pourquoi je passe ma vie à dire « cette chose est à faire », alors que j'ai motif, vouloir, force et moyen de la faire. D'accord ? Alors, voilà tous ces motifs, tous ces motifs conscients. Il est vrai, alors on peut remarquer aussi par parenthèse que quelque chose dans cette pièce ne s'inscrit pas aux tables de la mémoire d'Hamlet. Il y a un passage dont on n'a pas parlé mais qui peut-être peut retenir notre attention et on peut le mettre en parallèle avec ça. Comment interpréter en fait ce besoin qu'a eu Hamlet au moment, juste après avoir vu le spectre, alors qu'il fait nuit noire, ce besoin de mettre par écrit sur des tablettes le commandement que le spectre lui intime, c'est-à-dire le fait de ne pas le fait de se souvenir de lui. D'accord ? Il est là, il est encore tout seul avant que ses deux camarades ne le rejoignent. Mes tablettes, il convient que j'en prenne note. Il y fait nuit noire, d'accord ? On voit pas ses pieds. Que l'on peut sourire et être félon au moins, je suis sûr que cela peut être au Danemark, la didascalie dit, il écrit. Là, mon oncle, vous êtes là, maintenant ma promesse, c'est, entre guillemets, adieu, adieu, souviens-toi de moi. J'en ai fait le serment. Pourquoi est-ce qu'il... Il vient de recevoir cette visitation du spectre. Quel est ce besoin-là d'écrire ? Par peur de ne pas s'en souvenir ? Peut-être par une espèce de pressentiment anticipé que quelque chose risque de se perdre. Il y a effectivement ici quelque chose qui est de l'ordre de la fatalité dans Hamlet et qui travaille un petit peu souterrainement à s'opposer à l'accomplissement de l'acte de vengeance. En tout état de cause, et pour revenir à Ernest Jones, eh bien, de cette diversité de justifications, en fait, aucun motif n'est probant, on peut inférer que le vrai motif reste caché, que le vrai motif est inconscient, que tous les motifs conscients qui sont proposés sont des rationalisations, des expressions paradoxales de ce motif inconscient qui lui reste caché, y compris à la conscience d'Hamlet lui-même. Et ce motif caché, eh bien, comme on peut s'y attendre de la part d'un psychanalyste, c'est le complexe d'Oedipe refoulé. Et ce qui est refoulé dans l'inconscient, donc, eh bien, c'est la tendresse pour la mère, l'attirance de caractère sexuel pour la mère. Ernest Jones fait remarquer que Hamlet a à l'égard de la sexualité une attitude de rejet, une attitude d'aversion, et qu'il a à l'égard des femmes une attitude tout à fait misogyne. Frailty, thy name is woman, faiblesse, ton nom est femme, dit-il. Quand il médite un petit peu au départ sur l'inconstance de sa mère. Dans toute la pièce, il est vrai qu'Hamlet n'a de cesse, à chaque fois que l'occasion s'en présente, de ramener la sexualité à la crudité de la matière brute. Il est toujours en train d'essayer de mélanger la merveille de l'enfantement, de l'engendrement, avec l'horreur de la putréfaction et du pourrissement. Et il jette ça hein, à la figure de qui veut l'entendre, de ses interlocuteurs, de Polonius, d'Ophélie, de sa mère. Par exemple, hein, il dit à Polonius, en faisant allusion à Ophélie, puisque le soleil engendre des asticots dans un chien crevé, si c'est une charogne qui vaut d'être baisée, comme vous y allez. Hein. Oui, monseigneur, parce que Polonius ne sait pas véritablement de quoi, enfin, il essaye de prêcher le faux un petit peu pour savoir le vrai, et Hamlet continue, faites-lui éviter le soleil. Concevoir est une bénédiction, mais pas de la façon dont votre fille risque de concevoir. Veillez au grain, mon ami. Lorsqu'il était avec sa mère, hein, il lui reproche sa lascivité, et il lui dit vivre dans l'âcre suint d'un lit poisseux de graisse, mijoter dans le stupre, minauder, faire l'amour sur cette bauge infecte. Donc, il y a cette attitude de dégoût de la sexualité, de rejet de la mère, de rejet de la femme, qui va de pair avec une surévaluation tout à fait notable du père, justement. Hein, et avec une espèce d'idéalisation, de mise sur un piédestal du père, et de façon concomitante avec une dégradation, une diabolisation de son frère, de son double, hein, qui le ravale au rang de moins que rien. Et si on se rappelle hein, le passage là où il montrait à Gertrude les deux portraits concurrents de l'un et de l'autre, cette différenciation eh bien, court le risque d'être ramenée à une identité. Hein. Il y a dans ce dialogue les deux vers qui se suivent, celui qui était votre époux, celui qui est votre époux. Alors la trop forte ressemblance entre les deux bah, explique peut-être son désir de les différencier, hein, cette espèce d'exagération un petit peu infantile qu'il a à ce moment-là. Et c'est peut-être là aussi que réside le problème inconscient qui empêche Hamlet, qui le fait hésiter de tuer son oncle juste avant. Parce que si ils sont si identiques que ça, qu'est-ce que je vais faire, moi, Hamlet, si je tue mon oncle, qui malgré toutes mes protestations, malgré tout mon désir qu'il soit absolument le contraire de mon père, mais si j'ai ce doute que les deux personnages sont au contraire bien plus proches que cela, eh bien en tuant mon oncle, quelque part, symboliquement, je tue aussi mon père. Le laisser en vie sous un prétexte de circonstance, au contraire, eh bien ça satisferait un désir inconscient, ça satisferait cette volonté de ne pas tuer le père. Alors le père est déjà mort, mais ce qui n'est pas mort, c'est la relation qu'a Hamlet avec son père, la relation qui perdure. Hein, parce que faire l'acte, commettre cet acte, eh bien ce serait tuer le père une deuxième fois, ce serait tuer ce qui relie encore peut-être Hamlet à son père. Hein, voilà pourquoi on peut imaginer que quelque part il se dirait, lorsqu'il tient son épée suspendue au-dessus de la tête de son oncle, qui vais-je tuer hein, quand je vais commettre cet acte ou que vais-je tuer? Et alors, il est tout à fait frappant aussi de voir comment Shakespeare a construit en parallèle, comme je vous le disais, en écho hein, ou en miroir, un certain nombre de scènes. Et ce monologue de Claudius qui prie, eh bien, fait écho au célèbre monologue de Hamlet, To be or not to be. Les deux monologues proposent une espèce de méditation entre le ciel et la terre, une méditation sur la vie et la mort. Les deux dissertent sur la paralysie de l'action, sur la partition en deux de l'être, et du même coup sur la partition en deux de sa volonté. À la méditation d'Hamlet sur le suicide fait écho la menace qui pèse sur le roi avec l'épée tirée. Mais il y a une même hésitation, un même suspense, un même hors-temps dans ces deux monologues, auquel fait écho, un écho de plus, hein, comme on l'a dit, l'immobilité d'un instant de l'épée de Pyrrhus au-dessus de la tête de Priam. Alors, et on peut remarquer aussi, dernier paradoxe, hein, que l'objection d'Hamlet contre le fait de se tuer dans son propre monologue, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui pourrait surgir, est-ce que la mort est bien la fin de tout? Eh bien, c'est le même genre d'argument qui le retient face au fait de tuer le roi. Hein. Le punir, ce serait le délivrer des tourments, hein, des 1000 chocs naturels dont hérite la chair. Il y a dans la tête du personnage d'Hamlet en fait une telle confusion, un tel brouillage des frontières, un tel brouillage des identités, qu'à un certain niveau, peut-être, hein, c'est l'interprétation psychanalytique, en tout cas, il n'y a plus grande différence entre se tuer soi-même, tuer son oncle, tuer son père, tout ça est fondu dans une sorte d'équivalence un petit peu redoutable et qui serait le ciment de cette paralysie. L'acte de tuer court le danger de manquer son but, hein, et par une espèce d'ironie du sort qui se retournerait contre lui, eh bien, Hamlet serait, en commettant cet acte, l'agent inconscient d'un autre acte plus significatif, mais qui ne lui apparaîtrait qu'une fois ce meurtre commis. Et par là, Hamlet rejoindrait dans le il ne le savait pas, la figure d'Œdipe, hein, qui accomplit tout ce qu'il accomplit sans savoir qu'il le fait. Alors, pourtant, tuer un homme, c'est bien facile, hein. Tuer un homme, ça ne prend que le temps de dire un, comme dit Hamlet à la fin, à son ami Horatio. Ça ne saurait tarder, l'intervalle est à moi, et la vie d'un homme, ce n'est que souffler un. Autre écho, hein, on peut le signaler, parce que ce 1 de Hamlet ici fait écho à ce qui se passait au tout début sur les remparts du château, et ça se passait à 1 h du matin. The bell then beating 1. Effectivement, si cela est si rapide, si cela est si facile de tuer un homme, eh bien, pourquoi étirer toute cette action sur des distances incommensurables, sur ces 5 actes qui font 4 heures de représentation, et alors que ça pourrait être réglé en un claquement de doigts, hein? Pour quelle raison l'acte qu'Hamlet finalement accomplira à la fin, il ne pourra le faire que lorsque il sera lui-même touché à mort? D'être tant différé, eh bien, dans cette pièce, la vengeance acquiert finalement un autre statut. On peut dire que la vengeance est questionnée, hein, en tant qu'acte, est-ce qu'elle est légitime ou non? Et même au-delà de ça, la vengeance devient une espèce de métaphore, l'acte à accomplir en lui-même. Qu'est-ce que c'est que cet acte à accomplir? Qu'est-ce qui, pour Hamlet, il s'agit non seulement de vengeance, mais il pressent qu'il y a autre chose aussi, hein, lorsqu'il faisait cette réflexion, que l'ordre du monde était bouleversé et que ça, il lui incombait à lui de le rétablir. Il y a une idée, peut-être, que l'on pourrait appeler la justice derrière ça. Alors la justice et la vengeance, ça n'est pas exactement la même chose. La justice introduit un ordre transcendant, hein, dans une relation duelle, là où il y avait une simple rivalité et la loi du plus fort. La justice établit un ordre souverain auquel tous sont supposément soumis. La justice prend en charge la violence, mais l'écrase, elle se surimpose à elle et elle en fait quelque chose d'autre, hein, tout en la satisfaisant d'une façon partielle. Elle en fait un autre ordre du monde. Alors c'est une première réflexion. Une deuxième chose, c'est que différer la vengeance, hein, c'est par ailleurs augmenter la punition quelque part. C'est ce dont témoigne la réflexion que se fait Claudius lorsqu'il est en prière et qu'il compare son crime odieux. Oh, mon crime est puant, il empeste jusqu'au ciel, il porte la plus antique des malédictions. Ici, il y a cette référence à Abel et Caïn, hein, le meurtre d'un frère. La justice, donc, c'est un idéal qui dépasse chacun des acteurs du drame. Personne ne peut prétendre l'incarner, personne ne peut prétendre être le redresseur des torts, car celui qui le ferait, eh bien, tirerait pour lui-même, hein, d'une façon égoïste, les bénéfices de cet acte de justice qui ne serait plus seulement de justice, mais de vengeance aussi, à ce moment-là. C'est la contradiction, hein, donc, que Claudius aborde, hein, donc Claudius fait état un petit peu plus loin dans ce même monologue, où il dit, hein, et voilà, mais quelle prière trouver qui soit la bonne? Pardonnez-moi ce meurtre ignoble. dit-il en s'adressant à Dieu. Cela ne se peut, puisque j'ai toujours la jouissance des biens pour lesquels j'ai commis ce meurtre, ma couronne, ma propre ambition et ma reine. Se voit-on pardonné si l'on garde le fruit du crime ? Évidemment, la réponse est négative. C'est peut-être simultanément cette réflexion que se fait Hamlet pour son compte lorsqu'il hésite à tuer Claudius, lorsqu'il est derrière lui dans cette fameuse scène. Et puis, autre chose aussi concernant cet ordre du monde, hein, cette justice, entre guillemets, qu'il conviendrait de rétablir, eh bien, la justice vient buter sur le problème de la mort dans la pièce. Alors, le spectre dont on a abondamment parlé, c'est certes la rencontre avec un mort, mais c'est aussi la rencontre avec la mort. Et accorder l'idée de la mort avec l'idée de la justice, eh bien, c'est en quelque sorte la quadrature du cercle que tente Hamlet, qu'il n'a de cesse de chercher, mais en vain. Le personnage, dans tout le courant de la pièce, est entraîné au-devant de la mort. Jacques Lacan parle de quelque chose dans Hamlet qu'il intitule « L'aller au-devant de la mort ». Effectivement, il y a ce mouvement permanent du personnage pour se mettre en jeu lui-même, physiquement ou psychiquement, face à la mort. Alors il y a des tas de passages qui sont vraiment symptomatiques de tout ça, on a parlé d'un certain nombre d'entre eux, le monologue, le fameux monologue de « To be or not to be », mais il y a aussi vers la fin de la pièce, la scène des fossoyeurs, il y a cette espèce de chanson burlesque, puisque dans la pièce alterne sans cesse les moments tragiques et les moments beaucoup plus drôles, beaucoup plus légers. La chanson du fossoyeur, qui met en scène une espèce de copulation burlesque avec la terre. Il est là en train de creuser la tombe et il chante cette chanson tout jeune. « Quand j'étais fou, amoureux, je trouvais ça si délicieux de passer le temps à être heureux. Oh, je trouvais qu'il n'y avait rien de mieux. » Donc, effectivement, là, on est dans le registre de la drôlerie, de la comédie, mais on est aussi dans le thème de la pénétration, ici sous forme symbolique de la bêche, qui est comme un phallus, de la pénétration, de l'interpénétration de la vie et de la mort. Et puis, il y a cette scène des fossoyeurs, ces fossoyeurs qui sont éminemment pointilleux, qui se répandent dans des espèces d'argusies de juristes, là, de querelles, de casuistes qui discutent de façon à perte de vue sur la légalité ou sur la légitimité de l'enterrement qui vient. Il y a aussi la fameuse scène du crâne de Yorick, méditation lyrique sur l'impermanence des choses, sur la transformation de tout et sur la transformation en particulier de la vie dans la mort. Et puis il y a cette scène juste après où Hamlet se jette dans la tombe d'Ophélie et s'empoigne au collet avec Laërte. Donc ce sont autant d'exemples de cet élan, de cet aller au devant de la mort, comme disait Jacques Lacan, ou de cet aller au devant de ces régions inexplorées dont nul voyageur ne revient. Alors est-ce que c'est en allant au devant de la mort que quelque chose d'une vérité sur la vie va se révéler, va se découvrir ? Est-ce que c'est en allant au-devant de la mort que le problème insoluble de l'existence va finalement se dénouer ? Aller au-devant de la mort, c'est de toute façon là l'essence même de la tragédie, comme en témoigne l'étymologie du mot tragédie. Dans la Grèce antique, à la naissance de la tragédie, à la source de la tragédie, il y a ces cérémonies, ce sont les temps sacrificiels, donc ce sont des cérémonies en l'honneur du dieu Dionysos, le dieu de tous les excès, de l'ivresse, le dieu de la transe, et il y a ces chants, ces danses, cette cérémonie collective où les choses, fermentent, où la violence, l'hystérie se construit peu à peu, il y a ces libations, cette transe, ces danses, cette excitation, et dont la montée, l'inexorable montée, se résout dans cet acte sacrificiel, le temps de dire « un », comme dirait Hamlet. Il y avait cet animal, ce bouc émissaire, qui avait la gorge tranchée à la fin, et ça signalait, c'était la fin de la cérémonie. C'est de cette cérémonie donc que vient le théâtre tragique, la tragédie. Le bouc, hein, en grec, c'est tragos et odé, le chant. Tragus odé, la tragédie, le chant du bouc, hein, ce mystère, hein, qui est à la fois un mystère sonore, hein, ce qui s'échappe de sa gorge au moment où on la lui tranche, et à la fois un mystère visuel avec ce sang qui se répand. Alors dans le cadre d'une revenge play, d'être tant attendu, d'être tant retardé jusqu'à la fin extrême de ce cinquième acte, eh bien fait de cet instant sacrificiel qui était malgré tout encadré, hein, codifié très précisément, fait de cet instant un espèce de carnage épouvantable où tout périt en même temps, la victime, le vengeur, le coupable, tous ceux qui, de près ou de loin, à un degré ou à un autre, avaient une part à cette situation explosive qui n'a cessé de s'envenimer, de s'embrouiller, jusqu'à déboucher sur cette catastrophe totale. Alors René Girard, qui était un grand commentateur de Shakespeare, faisait la réflexion à propos du cinquième acte d'Hamlet, que notre époque moderne pouvait fort bien être en train de s'acheminer vers un dénouement identique, avec ses capacités de destruction démultipliées par la technologie, avec l'ébullition de toutes ces impasses, de toutes ces multiples contradictions. Eh bien, le cinquième acte d'Hamlet pourrait, enfin, selon lui, ressembler à une espèce de préfiguration de ce qui nous attend. Nous, hein, il y aurait dans Hamlet une actualité qui conviendrait d'être méditée. Cette fiction, l'idée que cette fiction, que la fiction, hein, en général, préfigure, préforme la réalité, le fait que la réalité est presque pré-programmée par la fiction, eh bien, c'est une idée qui apparaît très souvent dans la pièce elle-même, de par l'écriture de Shakespeare, alors non pas l'écriture implicite, mais plutôt de par la dramaturgie, de par la chronologie, hein, de la pièce. On a déjà parlé du récit de la mort d'Hamlet par le spectre qui utilise les éléments de l'intrigue du meurtre de Gonzague. On a déjà parlé aussi de l'épée de Pyrrhus qui reste en suspens au-dessus de la tête de Priam avant qu'Hamlet ne vive exactement la même chose quelques moments après. On peut y ajouter aussi, autre exemple, hein, des petits indices comme ça que Shakespeare a laissé un petit peu partout, Polonius massacré comme un veau capital dans Jules César en tant qu'acteur, avant d'être pourfendu de manière réelle à travers la tapisserie par l'épée d'Hamlet. Donc dans cet espace, laissé libre par cette vengeance qui ne vient jamais, eh bien prennent place un certain nombre d'autres choses. Prend place tout ce jeu d'écho dont on a déjà parlé, cette construction en miroir, hein, ces anticipations, ces préfigurations, ces parallèles, ces renversements contradictoires qui viennent finalement emprisonner le personnage d'Hamlet dans un labyrinthe duquel il ne s'échappera jamais, enfin si ce n'est dans la mort. « This was sometime a paradox », dit-il à Ophélie au début de la pièce. Hein, dans un dialogue, dans ce dialogue dont on a déjà parlé, il est en train de lui parler de la beauté et de l'honnêteté, du fait que est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est honnête, etc. Bon. Hamlet, Ophélie ne sait pas vraiment où il veut en venir. Hamlet, lui, a une idée derrière la tête. Oui, vraiment, lui dit-il, car le pouvoir de la beauté aura changé l'honnêteté en entremetteuse avant que la force de l'honnêteté n'ait pu modeler la beauté à son image. Cela était naguère un paradoxe, mais aujourd'hui, nous en voyons la preuve. This was sometime a paradox. Il y a dans cette réflexion quelque chose de beaucoup plus terrible que simplement le constat que la mode a changé, que les usages sont différents et que ce qui était autrefois non admis est aujourd'hui courant. Il y a l'idée que ce sont les fondements même de la logique, les fondements même de l'intellection du monde, de la compréhension du monde, que la structure même des lois de la raison est bouleversée et ne sont plus ce qu'elles étaient autrefois. Ce qui était paradoxal au regard de la logique, au regard de l'enchaînement cause-conséquence, ne l'est plus aujourd'hui. Et alors, se mettant à la place d'Hamlet, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est l'ordre du monde lui-même qui s'écroule, et quand il devient difficile, voire impossible, de distinguer si c'est le monde lui-même qui devient fou, ou si c'est notre raison qui vacille et qui ne nous permet plus de comprendre les choses telles qu'elles se déroulent. Que faire lorsqu'on se retrouve dans cette zone, dans cette incertitude, dans cette indistinction? Alors Hamlet, on peut avoir pitié de lui, moi j'ai pitié de lui, hein, effectivement, c'est bien triste tout ce qui lui arrive. Et je crois qu'on peut peut-être le laisser là, parce que chacun a essayé de percer son mystère, ça demeure encore partiellement une énigme, mais je crois que ma tentative peut aussi s'arrêter là. On a assez joué de ces notes, hein, je pense, et nous allons peut-être le laisser tranquille, hein, le laisser à son repos, comme il le dit lui-même, ses dernières paroles, « The rest is silence ». The rest, c'est donc le double sens en anglais, hein, du reste, de tout ce qui reste, et puis du repos. Hein. Donc le reste est silence, et le repos aussi. Alors effectivement, on va le laisser au repos de son immobilité éternelle et de son silence, mais nous n'en avons pas tout à fait fini avec Horatio, avec Shakespeare et aussi avec nous-mêmes. Alors Horatio, c'est Shakespeare. C'est à lui qu'Hamlet, mourant, confie le soin de raconter son histoire dans une espèce d'étrange boucle, l'histoire qui serait Hamlet, qui serait donc celle qui, justement, est racontée depuis le commencement. Il est parti, Horatio, pour rejoindre son ami dans un suicide conjoint qui est digne de Roméo et Juliette, un petit peu. Il veut s'empoisonner sur le corps mourant de son ami, et c'est à ce moment-là que sa mission lui est confiée. Hamlet lui dit « Restons-en là hein. ». Hamlet lui dit, là, là, vous qui êtes pâle et tremblant de voir cette infortune alors qu'il est en train de mourir, simple figurant muet ou public de ce drame, il y a ici le fait qu'il y a le quatrième mur qui est un petit peu percé, hein, il s'adresse non plus seulement aux acteurs du drame mais aussi un petit peu aux spectateurs. Simple figurant muet ou public de ce drame, si j'en avais le temps, mais ce féroce sergent, la mort, arrête sans pitié, oh, je pourrais vous dire. Mais restons-en là. Horatio, je suis mort, tu vis toi. Fais de moi et de ma cause un juste récit à ceux qui ont des doutes. Eh bien oui, il y a toujours ce doute, il y a toujours cette idée que malgré tout ce qu'on vient de voir, malgré les évidences qui viennent d'être déployées sous nos yeux, peut-être ce n'est pas ce que nous avons vu qu'il fallait voir. Toujours est-il, Horatio, c'est un lettré. Hein, s'il est issu de l'université de Wittenberg, l'université de la Réforme, c'est lui qui sait parler aux fantômes. Horatio, c'est l'orateur, hein, ça s'entend dans son nom, celui qui dit et qui apprend aux autres les circonstances, par exemple au début de politique qui entoure le drame, l'histoire avec Fortinbras, etc. Horatio, c'est aussi la raison, la ratio, hein, une certaine rationalité en tout cas, qui lui permet de mettre en perspective l'apparition spectrale avec ses connaissances, de rapporter cette apparition incompréhensible a une signification. Et puis Horatio, c'est l'ami d'Hamlet, bien évidemment, hein, le spectateur de son drame, le dépositaire de son histoire, mais quelque part aussi, comme on le disait un petit peu au début, son initiateur, celui par qui tout commence, comme on l'a rappelé, hein, par cette vision. Alors c'est le seul ami d'Hamlet, et quel ami, mes amis, hein. Hamlet lui fait une espèce de déclaration à un moment donné assez longue dont je ne vous lis que la fin. Dites-moi l'homme qui n'est pas l'esclave des passions et je le porterai au creux de mon cœur. Oui, dans le creux de mon cœur, là où tu es toi. J'en ai bien trop dit. Alors il y a cette curieuse, comment dire, autocensure d'Hamlet, hein, j'en ai bien trop dit, qui signale que effectivement peut-être quelque chose s'est dit de plus que ce que les simples mots veulent dire. Hein. Il y a ici l'aveu couvert un petit peu d'une relation homosexuelle, enfin d'une ambiguïté en tout cas, homosexuelle. Horatio, c'est aussi l'homme de l'ombre, hein, le portier, celui qui emmène Ophélie lorsqu'elle est folle à la demande de la reine. D'ailleurs, que faisait-il là et pourquoi est-ce lui qui est chargé de la garde d'Ophélie? Encore un mystère. Et puis il s'acquitte tellement mal de sa tâche qu'il la laisse revenir peu après sous les yeux de Laërte et qui est effondré. Ou alors il s'acquitte mal de sa tâche, ou peut-être s'en acquitte-t-il bien au regard de son rôle dramaturgique, puisque le retour d'Ophélie est ce qui va cimenter le désir de vengeance chez son frère Laërte. Et puis Horatio, c'est celui qui voit le spectre. Il a des yeux, il a de bons yeux, c'est lui qui le voit en premier. En revanche, pour ce qui est des oreilles, elles semblent un petit peu bouchées. Eh oui, autre incongruité qui passe peut-être inaperçue à une première lecture, mais sur les remparts, la nuit, il demande l'heure qu'il est. Bon, comme si ça avait une... Bon, effectivement, ça a une importance particulière. Minuit sonné, lui dit Marcellus, et il répond vraiment, je n'ai pas entendu. Bon. Pas plus qu'il n'entend d'ailleurs, ou qu'il ne comprend plus exactement, le sens des bruits de trompettes et de canons qui viennent d'en bas. Hein. Et il a besoin d'Hamlet qui le lui explique. Le roi, lui dit Hamlet, boit ce soir, et dès qu'il a vidé sa coupe, timbales et trompettes viennent braire de la sorte pour célébrer ses vœux. Mais c'est d'en bas aussi, dans cette même scène, que viendra peu après la rumeur terrible du fantôme qui enjoindra aux compagnons de jurer. Le silence, hein, comme ce grondement qui remonte des profondeurs, il remonte du lieu où montaient bah, ces bruits hein, très peu de temps auparavant. Et puis, on peut aussi, autre incongruité hein, qu'on ne va pas non plus expliquer, mais Shakespeare s'adresse au fantôme d'une manière particulière lorsqu'il est en face de lui, avec respect, déférence, etc. Lorsque c'est un esprit souterrain qui leur enjoint de jurer, il s'adresse à lui en lui disant des mot un petit peu incongru, il l'appelle Old Mole en anglais, Boy, True Penny, hein, ce qui en français pourrait se traduire par vieille taupe, pauvre cloche, sapeur, mec, vieille tache. Hein. Bon, tout un tas de désignations comme ça, un petit peu quand même bizarre, parce que c'est son père après tout, hein, si c'est effectivement son père, c'est un petit peu une façon cavalière de s'adresser à lui. Horatio n'a pas de volonté propre, il n'a pas d'existence autonome, il n'a rien à faire dans cette pièce, hein, si ce n'est être le spectateur d'Hamlet. Et il a en lui aussi quelque chose dont il faut bien reconnaître que c'est énigmatique. Mais qu'est-ce qui n'est pas énigmatique dans cette pièce labyrinthique, hein, faite de plis, faite de replis, faite de mots qui sonnent, de mots qui résonnent, comme le dit Hamlet lui-même, hein, words, 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 des mots qui partent en écho dans toutes les directions et qui se referment sur Hamlet, qui se referment sur vous, le public, les spectateurs, et qui peut-être nous mettent en mesure de relâcher tous les spectres, tous les fantômes que nous avons à l'intérieur de nous. Alors, un fantôme, il en est un autre, hein, c'est Shakespeare lui-même, ce bonhomme dont on ne sait absolument rien sur le plan personnel. On a un petit papier qu'il a écrit de sa main, en dehors de ses pièces, hein, un petit document officiel, bon, un acte de notaire, et puis c'est tout. Sinon, quelques témoignages de ses amis, mais des témoignages qui sont à prendre comme des témoignages, c'est-à-dire hein, des choses bien plus tard qui ont été recueillies ensuite, qui peut-être ont été modifiées. Il y a le phénomène légendaire qui vient s'ajouter aux informations purement factuelles. Alors comment, en tout cas, bon, puisqu'on n'en sait rien, on peut pas inventer, hein, mais ce qu'on peut être saisi un petit peu de, comment dire, d'admiration hein, ou de questionnement, comment est-ce qu'un type a pu écrire ça, quoi? Comment atteindre à cette maturité, à cette complétude, à cette complexité? Alors on peut expliquer les choses par le génie. Bon, c'est vrai, sans doute, hein, sans doute qu'il était génial. Bon, bah, de toute façon, c'est une condition indispensable, hein. Sans doute était-il génial, mais il y a aussi peut-être une autre explication dans la manière dont il écrivait, je veux dire, la manière dont il produisait hein, ses pièces de théâtre. Ce n'est pas un écrivain comme on en a le modèle parmi nous, quelqu'un qui commence à écrire un texte sur un manuscrit et puis qui le travaille, qui fait des brouillons éventuellement, et qui met au propre une version définitive, qui met un point final à la fin, et qui donne ce manuscrit à un imprimeur. C'est pas comme ça que travaillait Shakespeare. Shakespeare, d'ailleurs, n'a jamais essayé de publier de son vivant ses pièces. Il écrivait sur des bouts de papier, hein, sur des papiers qu'il roulait ensuite, sur des rouleaux, des rolls, et il écrivait à chaque acteur de sa troupe son rôle, sa partie, hein, ses répliques. Et donc le texte se trouvait disséminé comme ça, se trouvait fragmenté en fait entre les différents comédiens, les différents acteurs. Et donc le travail d'édition, hein, du texte, de ce qu'on a maintenant sous forme des tragédies de Shakespeare, c'est largement un travail de recollage, de raboutage de ces différentes pièces. Alors c'est intéressant aussi parce qu'il y avait tout le processus du théâtre, hein, les répétitions et puis ensuite les représentations, et ça durait parfois plusieurs mois. Il y avait à peu près 2 pièces par an, ça dépendait des années, hein, mais parce qu'il y a eu beaucoup de pestes, d'épidémies. Mais disons qu'en moyenne, il y avait 2 pièces par an qui étaient produites. Donc ça laissait tout loisir à Shakespeare de penser, hein, pendant les répétitions, à ses répliques, à l'agencement dramatique de l'action, à reprendre des mains de l'acteur à qui il avait donné son papier et à le corriger, à changer les choses, à affiner au fur et à mesure des répétitions et des représentations. Il faut s'imaginer que Shakespeare vivait en permanence au quotidien avec ses personnages, avec ces espèces de fantômes auxquels il donnait un corps et auxquels il donnait une voix, que ces personnages, ces pièces, l'agencement dramaturgique de l'action était au cœur de sa réflexion la plus intime à tous les moments de son existence. C'est pas seulement quelqu'un qui travaillait entre 4 et 6. Il avait l'esprit occupé par ça en permanence. Il couchait avec ses personnages. Il rêvait, hein, sans doute, de ces personnages. Donc, ce travail qui a peut-être, hein, là c'est une simple supposition, mais peut-être été celui de Shakespeare, expliquerait aussi, peut-être, quelque part, la profondeur de ces pièces, et en particulier de Hamlet, hein, expliquerait le caractère génial que beaucoup de personnes s'accordent à lui reconnaître. Alors, pour ma part, effectivement, hein, je me suis lancé dans cette présentation de Shakespeare aux fins de faire cette vidéo, et donc j'ai dû m'identifier un petit peu au personnage. J'ai dû essayer de creuser, moi aussi, hein, sur un petit peu plus profondément, sur tous les thèmes dont je vous ai fait état. Et en fait, on rentre dans une telle pièce qui est une pièce labyrinthique, et on court le risque, enfin je l'ai éprouvé pour moi-même, de se perdre un petit peu, hein, c'est-à-dire cette mélancolie qui est celle d'Hamlet amène une identification, ce personnage qui est extrêmement humain. Alors ça ne veut pas dire grand-chose de dire ça, mais ce personnage dans lequel on peut reconnaître énormément de choses intimes, énormément de choses assez subtiles et pourtant profondes, eh bien amène à une identification. Et dans ce labyrinthe, hein, de l'esprit d'Hamlet, de l'âme d'Hamlet, dans ce labyrinthe de cette pièce, dans cet espace confus, indistinct, où des spectres air et voyage, eh bien, je me suis parfois un petit peu perdu. Hein. J'ai éprouvé moi-même, à l'instar d'Hamlet, comment dire, la morbidité, hein, d'un tel état. Alors, bon, finalement, j'ai pu trouver, avec l'aide de quelques autres esprits amis, ceci, mon chemin vers l'extérieur. Mais, et voilà, je vous donne ici le résultat, hein, de mon parcours, en fait. Et je suis un petit peu comme Horatio, hein, c'est-à-dire que je livre ici, dans cette vidéo, une façon de raconter l'histoire. Voilà. Je crois qu'on peut en rester là.